Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité. On essaye d'enchaîner dans un instant, là, vous allez avoir droit à la tempête sur les planches. Bonne année à toutes et à tous, hein. Bonne suite 2023 dans les théâtres, dans les salles de spectacle. Avant de commencer, bon, les titres des journaux de ces derniers temps qui nous montrent dans quel monde nous vivons, je cite quelques sources de l'information. Grâce à un tissu synthétique, des cochons retrouvent leur érection. B. Les policiers interpellent des bouchers avec de la drogue mais tombent sur un os. C. Marine Le Pen, on cite Emmanuel Macron, est de moins en moins drôle. D. Selon la justice, un chômeur en formation professionnelle n'est pas un consommateur. E. Y a-t-il une vie après les gilets jaunes pour le cadran solaire du rond-point de Perpignan? Voilà les informations de notre époque. Alors, nous sommes sur Radio Libertaire et nous sommes bien sûr liés au monde libertaire et vous le trouvez en allant au 145 de la rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Et ça se trouve au métro Oberkampf, fille du calvaire ou bien République, bien sûr.
Quel auditoire sympathique et charmant.
Démarrage dans l'année 2023. Allez, bonne année à toutes, à tous. Et bon spectacle dans le théâtre, pour la danse, pour la performance, pour le clown, etc., etc., pour la poésie et tout ce que vous voulez. Bon, pour commencer cette année 2023, on va se jeter dans les couleurs et dans la terre. Deux propositions aujourd'hui hautement intéressantes. Alors, avec Jean Lambert Wild, Coloris Vitalis au théâtre de Belleville. Et puis on attend Tatiana Spivakov pour Ton corps-ma terre, avec des poèmes de Mahmoud Darwish. Et ça se prépare au théâtre de Montreuil. System, enough can resist it. No, it's broken, no going fix it. You're not gonna change the line of dog and tell.
sleeping on the yarder when you're ready. You throw him on a business.
We have to find a way to stop this right now.
By any means necessary. Long to see the freedom of the poor. Poor people can't take no more. So if I make we stop this right now, by any means necessary. Take a trip and leave Babylon once more. Africa, Africa with territory. I take a train or take a plane or take a bus. I don't mind if it's diesel. I'm out of here, yarding to the east. I need to be amongst my people. No more excuses. It's time to reveal the truth. I and I got to do this before we get executed. No more excuses. It's time to reveal the truth. I and I got to do this before we get executed. For so many years they have us in slavery. First it was physical, now it is mentally. We have to find a way to stop this right now. By any means necessary. Long to see the freedom of the poor.
Bon, alors, by any means necessary, ça c'est bien sûr la devise de Radio Libertaire aussi. Hein. On fait ce qu'on peut et avec ce qu'on peut, et, mais on y met autant que nécessaire, autant qu'il faut pour continuer à vivre, pour continuer à émettre. Et bon, comme ça, on a quand même encore quelques belles tempêtes sur les planches à vivre en 2023 et au-delà. Donc on commence avec Jean Lambertville. Je te salue, je suis très heureux de te retrouver dans ce studio de Radio Libertaire. Et parce que tu nous présentes maintenant un nouveau spectacle, un solo qui s'appelle Coloris Vitalis.
Bonjour, ben je suis très heureux de revenir, effectivement. J'ai la choix de revenir avec Coloris Vitalis qu'on présente actuellement au Théâtre de Belleville jusqu'au 31 janvier. Et c'est un texte, une entrée clownesque, écrite par Catherine Lefeuvre.
Voilà, il faudrait nous parler. Alors, je voulais te demander aussi, bien sûr, un peu de généalogie familiale. Lambertville, Wild, ça vient d'où? Est-ce que c'est germanique? Est-ce que c'est anglais? Comment est-ce que tu le prononces? D'où est-ce que ça vient? Et est-ce que ça veut, ou est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça veut dire que toi, genre Born to be Wild?
Non, c'est vraiment mon nom de famille. L'origine semble allemande, ce qui veut dire sauvage, et la branche anglaise est la même, en fait, que la branche allemande. Voilà.
Absolument, oui.
Ce qu'il y a de bien, c'est que les frontières n'existaient pas déjà il y a très longtemps, donc les gens ont pu se rencontrer. Donc non, c'est mon nom de famille, Lambertville. Et je le prononce à l'allemande, effectivement, pas à l'anglaise.
Et après, tu as encore un nom en plus, c'est Grand Blanc.
Alors Grand Blanc est donc le patronyme de mon clown, qui a été baptisé il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ce nom est apparu en 2012. Donc jusqu'à présent, je n'arrivais pas à lui donner son nom. Et ça s'est imposé à moi lorsque je suis retourné sur l'île de mon enfance à La Réunion.
Oui, très bien, très bien. Comment alors?
Eh bien, j'avais à La Réunion une dame que j'aimais beaucoup, qui était un peu ma grand-mère d'adoption, Madame Payette. Et je suis allé la voir pour lui demander comment elle allait. Et elle était très heureuse de me recevoir, elle était très âgée. C'est une dame, on pourrait dire, très vieux style. Et donc elle m'a demandé ce que je faisais, et je lui dis, je suis clown. Alors elle était quand même un peu embêtée, tu es clown? Et elle me dit, je lui dis, oui, mais je suis un clown blanc. Elle me dit, ah, tu es un grand blanc. Et le grand blanc, c'est l'élégance créole. Donc voilà, et je me suis dit, mais c'est parfait, elle m'a baptisé. Et comme elle a toujours été assez juste et aimante, j'ai gardé ce nom.
Ça prend tous les sens, alors. Et ce clown, ce personnage, a quand même un beau parcours derrière lui. Il a fait beaucoup de rencontres. Hein. Il a rencontré Shakespeare, il a rencontré Molière, il a rencontré, je ne sais pas, il s'était envolé aussi.
Il a été en avion, microgravité, grâce au CNES, et puis... il a été sous l'eau, il a travaillé avec des Indiens de Chavante, il existe depuis 20 ans, hein, donc il ne fait que se renforcer. Effectivement, il a croisé l'écriture de Beckett, celle de Shakespeare, celle de Molière, mais son écriture préférée, ça reste quand même celle de Catherine Lefeuvre.
Mais il est quand même, il a un côté universel, je veux dire, est-ce qu'il y a des univers où il resterait exclu?
Je ne pense pas qu'on puisse exclure un clown parce que c'est une singularité qui peut toujours s'adapter. C'est un clown blanc qui n'est pas un Auguste, hein, c'est une particularité très importante, à cet avantage qu'il est porteur de poésie. Moi, je dis souvent que c'est le valet des étoiles. Donc, il est là comme faire valoir des textes, faire valoir de ses camarades. Et donc, il peut se mettre au service de tout, qu'à cette condition première qu'il y ait de la poésie.
Mais alors, il est vraiment partout en même temps et finalement nulle part. Quand on le voit, on voit qu'il est probablement... Est-ce qu'il a un sexe déjà, si on commence par là?
Et alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Je pense que les clowns n'ont pas de genre. Voilà, ils sont et femmes et hommes et autre chose. J'ai un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Big Bertha, qui dit assez justement les saveurs entre deux. Donc c'est une saveur entre deux.
Mais oui, quand on le voit, ben, il peut se glisser dans certains héros, Richard III, par exemple, ou Don Juan, il a vécu ça. Est-ce que c'est déjà glissé dans un personnage féminin?
Alors, oui, ça lui est arrivé, pour ce que j'appelle des calentures. Les personnages que j'interprète, justement, sont sans genre. Au bout d'un moment, on ne sait plus qu'est-ce qui les accompagne. Par exemple, dans Coloris Vitalis, j'ai une robe. Donc, c'est quelque chose d'assez étrange. On ne sait pas exactement qui on a affaire. Qui est en face de nous, vous ne le savez pas exactement. C'est qu'à la fin, peut-être, que la résolution arrive.
C'est exactement ça, quand on le voit, on sent qu'on est un peu en porte-à-faux en se posant la question, parce que c'est apparemment une question qui ne s'est jamais posée à lui. Il est au-delà.
Il est de toute façon en dehors d'eux, c'est le principe même du clown blanc, c'est-à-dire qu'il est un centre qui doit être oublié. Donc il doit se faire oublier, en même temps c'est par cet oubli qu'il est une existence peut-être, à mon avis, la plus importante. Et c'est vraiment un faire-valoir, hein. Donc il est là au service de quelque chose. Là où souvent, par exemple, d'autres artistes vont d'abord être au service d'eux-mêmes, ce qui est très juste, le clown blanc, lui, essaye de disparaître.
Oui, mais il est parfois dans des productions que j'ai vues où il apparaissait, il était au service d'un personnage. Et il s'adresse donc à d'autres personnages, parce que c'est une écriture, c'est une pièce de théâtre. Mais maintenant, dans Coloris Vitalis, il est seul en scène. Et mais à qui s'adresse-t-il? Donc ça, c'est la question aussi.
Eh bien... Alors d'abord, je suis pas seul en scène parce qu'il y a Aimé qui m'accompagne, et puis il y a Maëlle aussi qui m'accompagne au son et à la lumière, donc on n'est jamais vraiment seul. Et puis je suis jamais seul parce qu'un clown travaille avec le public. Donc je le prends en compte d'entrée. Il n'y a pas de barrière entre la scène et la salle, ce qui fait que l'espace scénographique est construit dans cette relation avec le public. Donc Akai, il s'adresse à ce public. La question est de savoir quelle est la fonction de ce public? C'est peut-être un peloton d'exécution.
Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais c'est quelqu'un, effectivement, Coloris Vitalis, dans Coloris Vitalis, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui est constamment occupé à tromper la mort, en quelque sorte.
Exactement. Ce qu'il y a de très beau dans ce texte de Catherine Lefeuvre, c'est que On a vraiment l'impression qu'il essaye de tromper la mort, de gagner encore un peu de temps, comme il le dit dès le départ. Hein. J'aimerais avoir encore un peu de temps, du temps, encore du temps, encore un peu. Donc, il va essayer plein de subterfuges pour nous permettre de lui accorder quelques secondes de vitalité qui seront supplémentaires. Et il est à la fois drôle, touchant, parfois un peu colérique, parfois un peu combatif, mais en même temps humble, vif, boiteux, bousillé. Il est tout ça à la fois. C'est vraiment un texte que j'aime énormément. C'est une jonglerie des mots qui est assez folle et dans lequel je dois en plus rajouter des lazzi pour créer cette relation avec le public. Hier, il y avait des moments assez incroyables.
Oui, parce que bon, vous avez commencé le spectacle au Théâtre de Belleville et donc c'est jusqu'au 31 janvier. Calenture numéro 1 de l'hypogée, ça c'est le sous-titre. Alors, c'est à la fois difficile à comprendre, à la fois c'est très très beau, poétique, et j'ai regardé qu'est-ce que c'est. Alors, calenture, ils disent délire furieux observé chez les marins au moment de la traversée des zones tropicales et s'accompagnant d'un désir irrésistible de se jeter à la mer. C'est ça ?
C'est exactement ça, cette maladie oubliée qu'étaient les calentures. On peut penser d'ailleurs que Ulysse, avec ses argonautes, a eu un accès de calenture. Je trouve que le mot calenture pour mon clown est plus juste qu'un mot que je n'aime pas beaucoup et qui ne me convient pas artistiquement, qui est celui de performance. Voilà, je préfère laisser ça aux économistes et aux libéraux. Je ne suis pas performant. Moi, je suis atteint d'une fièvre poétique, donc je fais des calentures.
Oui, et le mot délire ?
Alors, oui, mais il faut l'entendre de la façon dont Rimbaud pourrait nous l'offrir, quand il dit dans le bateau « ivre, délires et rites melants ». Donc, le délire, c'est la possibilité d'un moment de sortir de son état de conscience et d'aller un peu au-delà.
Voilà, voilà. Et l'hypogée, en archéologie, je trouve ça, l'hypogée est une tombe creusée dans le sol. Alors, c'est paradoxal.
Alors, non, c'est...
Presque un oxymore.
Non, c'est pas paradoxal, ça fait partie de toujours la même fonction poétique et philosophique. J'ai prétention à dire que j'essaye de travailler sur une œuvre qui est celle de ma disparition. Et dans cette œuvre, il y a trois mélopées, trois confessions, trois épopées, un dithyrambe, deux exclusions et 326 calentures. Et toute cette œuvre s'appelle l'hypogée. C'est-à-dire que là où il y en a qui cherchent l'apogée et qui sont justement à nouveau dans la performance, eh bien moi je préfère avoir cette tombe qui me semble plus intéressante et dans laquelle il y aura des trésors. Voilà, donc sur les calentures, j'ai dû déjà en faire 75, un peu plus. J'avance petit à petit. Mais bon, heureusement,
là,
à 50 ans, il serait
une,
temps
alors.
Que je termine.
Là, c'est calenture numéro 1.
Alors, la classification ne respecte pas un ordre 1, 2, 3. Elle est un peu comme, par exemple, vous l'avez hein, dans la bande dessinée. Les chiffres sont donnés en fonction de la calenture. Donc, Coloris Vitalis, c'est la première. Mais par exemple, là, j'en ai fait une qui s'appelle Aléra et qui tourne, que j'aime beaucoup, avec Angélique Friand, un autre texte de Catherine Lefeuvre. C'est la calenture numéro 150. Voilà.
Bon, alors parlons des couleurs.
Ah, les couleurs.
Les couleurs. Le clown blanc et explosion de couleurs. Donc voilà, pour clown blanc et explosion de couleurs, quel rôle jouent les couleurs ?
Alors déjà, c'est un pléonasme que de dire clown blanc. Logiquement, on devrait dire clown. Alors aujourd'hui, tout le monde est clown, mais c'est vrai qu'il y avait une catégorisation des clowns qui était intéressante, et cette catégorisation crée de la dialectique, de la conversation, voilà, de la couleur. Et l'avantage du clown, donc blanc, je vais quand même reprendre ce pléonasme, c'est qu'il est capable d'accueillir toutes les couleurs, et que ces couleurs font partie de sa vitalité. Il y a aussi une différence très notable sur la façon qu'un clown va jouer, qui est très différente de celle d'un acteur. Le clown, C'est un cœur froid qui a le sang chaud. Donc il garde toujours le contrôle. Donc il a des capacités de rupture comme ça extrêmement rapides. Il peut passer d'une couleur à une autre et jongler avec ces couleurs-là. Et le texte de Catherine Lefebvre est vraiment un texte très savant et très agréable parce qu'elle arrive à jouer des couleurs comme elle joue des mots. Et ça, au bout d'un moment, ben, c'est jouissif.
Mais qui est-elle ? Alors, le texte est très étonnant. On commence, on a l'impression d'être emporté par un flot, par un torrent. On perd ses moyens face à ça et on se jette dedans. Et on est emporté.
Ben, Catherine Lefebvre est d'abord une écrivain, donc de grand talent. Donc elle a écrit Coloris Vitalis. Alors j'ai la chance qu'elle écrive pour moi sur mesure. Elle me fait des sous-quenilles, puisque la sous-quenille, c'est l'habit d'un clown blanc. Elle me fait des sous-quenilles de mots qui sont incroyables. Donc il y a Coloris Vitalis, il y avait Un clown à la mer qui est magnifique. Il y a Aléra. Elle m'a écrit aussi le clown du rocher. Là, elle est en train d'écrire un texte qui est incroyable qui s'appelle Le muet, qui sont à chaque fois des défis d'exécution. Je ne vous cache pas. Le Coloris Vitalis, à chaque fois que je l'interprète, je me dis l'affaire est quand même pas simple, mais j'y arrive. Et en plus, j'ai la chance de vivre avec elle et de l'avoir épousée, ce qui est mon plus grand bonheur. Voilà, donc il faut la lire, hein, elle est incroyable. Elle a une écriture, à mon avis, qui est du niveau de celle de Beckett à certains moments, c'est vraiment étonnant.
Ou je pensais plutôt à Rabelais.
À Rabelais aussi, c'est vrai, elle cumule. Mais c'est... Vous voyez, moi, quand je vous dis que le faire valoir, ce que je trouve intéressant lorsque je peux interpréter Coloris Vitalis, c'est que je suis le faire valoir des mots de Catherine Lefebvre. Et ça, c'est très agréable. D'un coup, je peux disparaître et être emporté par ce tourbillon de mots qu'elle a écrit. Et il faut aussi que je trouve des solutions, puisque, mine de rien, c'est 50 minutes qui sont comme un flot rougeoyant de mots. Donc il faut trouver des solutions pour que l'attention des spectateurs soit captée.
Ah ouais, l'affaire n'est pas simple, parce qu'en plus, en quelque sorte, tu te dédoubles un peu sur scène aussi. Hein.
Je me dédouble, j'ai capacité de passer d'un état à un autre. Non, mais voilà, je me dédouble, mais je ne bouge que peu, finalement. Je suis assez statique dans ma figure.
Mais avec, je ne sais pas maintenant, combien d'années de ce personnage de clown, tu
sais, 20 ans.
20 ans, ouais. Tu sais encore qui tu es
je pense que plus je travaille, plus je sais qui je suis. Donc ça, c'est l'avantage, c'est ce qui me permet de progresser. Donc je suis qu'au tout début, à mon avis, de ma recherche sur la question de ce qu'est un clown blanc. Avec Catherine, on est en train de réfléchir à un livre de pédagogie, de ce que pourrait être... une pédagogie du clown blanc. Il faut savoir que le clown blanc est une espèce en voie de disparition. Nous ne sommes plus très très nombreux. Allez, peut-être que nous sommes 8, 9, et encore plusieurs sont très âgés. Loretta, Francesca sont formidables, Yann Rossi est formidable, mais on ne les voit plus beaucoup. Et c'est quand même quelque chose qui devrait vous inquiéter, qu'on ne voit plus les clowns blancs, et que l'espace soit mobilisé par des augustes, des contrepites de grands talents. Mais quand ces espaces sont mobilisés, qu'il n'y a plus de duo clownesque, ça veut dire qu'on perd de la dialectique, on perd de la conversation. On perd donc une capacité d'humanité. Donc vraiment, moi je travaille sur cette question, et une des particularités, c'est comment améliorer mon clown, tant dans sa figure, sa gestuelle, sa voix. Voilà, j'ai trouvé mon instrument de musique, ça sera un duo.
Tu veux dire que le clown blanc, c'est un miroir, et se regarder en face, c'est plus à la mode?
Non, c'est pas tant un miroir, c'est une contradiction. Donc un miroir n'est pas une contradiction. On est dans un... Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une société du miroir où chacun se regarde lui-même tout le temps, et chacun essaye d'être soi, ce qui en soi n'est pas très attirant. Mais le clown, lui, est une contradiction. Il essaye justement de vous faire changer votre perspective, ce qui vous permet de voir un objet autrement, ou de considérer votre personne dans ses abus de faiblesse comme de pouvoir.
Mais l'autre clown, lui, mais il est sorti du cirque, il est un peu partout. Le clown rouge.
Mais l'Auguste.
Le
blanc, Il vient aussi du cirque, mais c'est vrai qu'il a une tradition que je pense, moi, plus ancienne, qu'on peut même rattacher au troubadour. Le seul problème du blanc, c'est qu'il a disparu. Il en est responsable, il s'est enfermé lui-même à certains moments. Mais si vous voulez, on parle beaucoup d'éco-responsabilité dans le monde dans lequel on vit, et je l'entends beaucoup. Et je suis toujours surpris d'imaginer que, comme artiste, on oublie que notre éco-responsabilité la plus importante, c'est le langage. Or, le langage disparaît, et la disparition du langage correspond à la disparition du vivant, puisque ce que vous ne pouvez plus nommer finit par disparaître. Le clown blanc, lui, aime le langage des mots, le langage des gestes, le langage des émotions, le langage du rire, et il travaille sur ça. Et effectivement, le langage disparaissant, les clowns ont disparu avec lui.
Alors, justement, tu peux nous donner un exemple, quelque chose, une partie du texte.
Vous voulez quelle partie là, une partie
ah, je ne sais pas quelle partie. C'est un texte où, moi, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'on peut vraiment rentrer à n'importe quel endroit.
Par exemple, je lui ai dit au docteur du coloriste en rut que je gargouille coloré sans répit. Vous n'avez pas, vous aussi, des couleurs érectiles, éruptives, convulsives, enfin, je veux dire en crise? Allons donc, vous avez bien des bulles de bleu, de jaune ou de vert qui vous barbouillent au-dessus de... au-dessous de... enfin là, quoi. Hé, toi, le palichon, tu ne gargouilles pas? Tu pètes un peu. Tu pètes un peu au lit, sous les draps, quand personne ne te voit, tu pètes, n'est-ce pas? Mon petit barbouilleur, mon petit gazouilleur, mon petit cachotier, va... Coquin, va, malin, vilain, vaurien, bonarien, ventrapin, batracien, musicien, parnassien, prussien, haussien, prolétarien, avec tes airs de petits barbouilleurs du dimanche, de pétouilleurs en vacances qui bronzent à crédit au club maître des péteux. Et vous autres, je vous trouve bien mauvais teint pour des barbouilleurs qui ne gargouillent pas. Vous devriez prendre des vacances. Le teint, ça capte la lumière des conduits du dedans et ça jaillit vers le visage comme un geyser de cellules épidermiques du fin fond vert de gris logé là. Mon teint, à moi, il est blanc. Je suis trois couches, moi, toujours, été comme hiver. Je suis le clown blanc. Voilà.
Mais où est-il, ce clown, en fait? J'ai l'impression qu'il était quelque part, il était question de grand départ. Il y a beaucoup de situations un peu apocalyptiques dans ce qu'il vit. On se demande où est-ce qu'il est, en fait, quel endroit
il correspond. Je pense qu'il est dans le monde que nous sommes en train de vivre, et je suis obligé de le dire, qui commence petit à petit à prendre des couleurs pré-fascistes. Et donc, dans ce monde-là, eh bien, effectivement, comme le dit Catherine Lefeuvre, mais qu'est-ce que je fais dans ce wagon? Qu'est-ce que je fais dans ce wagon? Moi qui ai toujours eu peur des trains, une peur jaune. Je crois que c'est assez clair, c'est assez subtil. Voilà, donc c'est l'avantage de la poésie, c'est qu'elle nous éclaire sur le malentendu qui est en train de se construire. Et il faut savoir qu'en plus, les clowns blancs ont toujours été, dans ces moments-là un peu difficiles de l'histoire, les premiers à en souffrir. On a oublié, mais que par exemple en Union soviétique, le clown blanc fut interdit. Il n'était pas très aimé d'ailleurs par le régime fasciste, qui préférait un auguste comme Grock, c'est à réfléchir. Donc oui, le clown blanc porte une liberté poétique. Celle-ci ne se cadre pas avec un régime pré-fasciste, ça c'est sûr. Alors on va me dire, mais vous exagérez sur un régime pré-fasciste? Je crois pas, la guerre est à nos portes, les gens sont de plus en plus violents, tout le monde est en opposition de tout, tout le monde oublie ce qui fera que nous faisions ensemble société et humanité. Donc oui, ce clown vit quelque chose d'assez douloureux, et d'ailleurs la fin est terrible. Quand, vers la fin du spectacle, de cette entrée clownesque, il termine par ce beau passage où il dit « Il est vrai qu'avant j'étais un clown heureux, le monde était bien organisé. » Bon, ben, moi je ne peux pas l'interpréter sans avoir des larmes, parce que je sais très bien ce qui conduit tout ça. Alors après, moi, je suis un optimiste forcené. Je ne crois pas que il faille se résoudre au néant. Non, je pense que vraiment, on peut battre en brèche beaucoup de choses, mais je fais confiance au pouvoir des mots et à l'élégance qu'ils ont. C'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble, a priori.
Et après, il est question de rayures.
Ah, mais les rayures.
Il porte des rayures.
Déjà, un clown a quelques signes distinctifs. Il a son blanc, bien sûr. Il a sa signature, hein, qui est le trait qu'il a sur le visage. J'ai la coquetterie d'en changer régulièrement pour l'adapter au caractère du personnage que je dois jouer, ou plus exactement au caractère des mots que je dois faire sortir de ma bouche. Et j'ai toujours un pyjama à rayures, alors qu'il y a ses variations, mais on retrouve toujours mes rayures qui sont vraiment un signe distinctif de mon clown. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que, en fait, les rayures étaient très à la mode au Xe siècle, surtout chez les garçons, mais la rayure... Pourquoi ? Ils adoraient ça, mais les rayures ne plaisaient pas aux pontifes, qui y voyaient des Judas ou des Caïn. Alors ça a été le règne du monochrome. Et donc les rayures, à partir du Xe siècle, ont été réservées aux mal-aimés, aux fous, aux jongleurs, aux prostituées, enfin à tous ces infâmes qu'on appelait les barrés. Donc tout comme moi qui suis complètement barré, donc c'est formidable. Voilà, donc je garde cette tradition de la rayure qui était une distinction... des jongleurs.
Et puis les rayures sont apparues dans les prisons.
Alors la rayure, elle est partout. Elle est dans les prisons, elle est dans les hôpitaux psychiatriques, elle est partout. La rayure est a toujours cette marque d'infamie, même si la mode s'en est saisie, elle la conserve.
Mais là, il y a un élément en plus dans Coloris Vitalis, c'est des drôles, des sortes d'ampoules rouges, là.
Ah, mes petites boursouflures, là, oui.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oh, je ne sais pas, sans doute des excroissances de ma maladie, comme des bubons de Coloris. nous avions une version où j'avais des explosifs sur moi. Et toutes ces ballons pleins étaient remplis de couleurs, et donc j'explosais à un moment, c'était assez dingue, vers la fin, et donc tout ça partait en nuages de couleurs. Mais tout de même, je ne suis pas certain qu'il soit si nécessaire que cela de détruire une robe qui a été faite avec tant de soin par une couturière chaque soir, parce que la robe était explosée, vraiment. Et donc, j'ai été plus sage et je me suis dit que l'explosion des mots suffirait. Donc, on a une photo où on me voit exploser. La régisseuse générale était très inquiète. Elle m'a dit, on ne peut pas en mettre autant, Jean, tu vas prendre feu. Je lui dis, oh, tout ça n'est pas si grave.
Mais maintenant, il y a des projections. Donc, le clown blanc... se découvre un côté arc-en-ciel, en quelque sorte. Hein.
Ah, mais il a un arc-en-ciel en lui. Vous savez, tout le monde dit le clown blanc, il est autoritaire, il est dur. Non, en fait, le clown blanc, fondamentalement, il est gentil. Il est animé par une tendresse, en fait. Cette tendresse peut être une autorité, mais c'est une tendresse. Il n'y a pas cette catégorie de pouvoir qu'on semble lui porter. À mon sens, hein, c'est une erreur. Un bon clown blanc, il est toujours tendre, en fait. Il est espiègle, il peut être enfantin, il a plein de possibilités. Mais ce qui le définit, c'est une tendresse. Même si cette tendresse peut être folle et anarchique, et qu'elle peut être, y compris à un moment suicidaire, il y a chez lui une tendresse.
Ah oui, Pierrot est toujours là.
Oui, mais Pierrot est plus triste. Pierrot, je dirais que c'est un clown qui a cédé à la dépression. Le clown blanc, lui, est plus combatif.
Mmh. Mais c'est bien, alors, c'est ça, c'est la vie, Coloris Vitalis. Tu joues quand ? Quel jour ? Ah oui, aujourd'hui.
Je joue tout à l'heure à 17h. Voilà, et puis lundi et mardi, on joue à 19h, 17h30 aujourd'hui. Le dimanche, c'est 17h30, c'est une subtilité. Le samedi, à 17h, et les autres jours, c'est les lundis et mardis à 19h15.
Voilà, le théâtre de Belleville, bon, petit théâtre, très sympathique. Passage Pivert, il se trouve, rue du Faubourg du Temple.
Et un Pivert pour la couleur, c'est parfait.
Métro Goncourt, je crois.
Hein, Concours ou Belleville, c'est comme vous voulez.
Oui. Oui, mais voilà, voilà. Ben, merci Jean. Jean, son clown blanc, grand blanc, Jean qui a réponse à tout, voilà, qui est à Paris. On a beaucoup de chance qu'il soit à Paris en ce mois de janvier 2023. Alors encore, mais bonne année, Jean.
Merci à vous, bonne année.
Jean Lamberville
de la poésie.
Voilà, tu peux nous reciter qui est responsable de ce spectacle-là.
Avec qui est responsable de ce spectacle. Alors, le texte, c'est Catherine Lefeuve, mais vous savez, la grande responsabilité de ce spectacle, c'est le public. Et c'est pour lui que je travaille.
Et les autres, pour les lumières ou autre chose?
Maëlle Baudet, qui s'occupe des lumières et de la régie son, et les lumières sont d'Alicia Carcenti. Aimé Lamberville, qui est ma fille, on travaille en famille, qui donc fait ce qu'on appelle un Auguste de reprise, qui vient m'accompagner dans ma folie. Et voilà, et Catherine Lefeuvre à l'écriture, et tous nos camarades de la coopérative 326, Michel Barry-Bénard, Fabiana Huart, et tous nos camarades qui font que cette aventure peut se poursuivre avec joie.
Oui, et puis espérons que ta fille continue la tradition et qu'elle deviendra un clown blanc tant que les autres sont en train de disparaître et qu'il y en aura au moins une qui continue.
Je ne l'inciterai à rien, vous savez, elle a déjà sa propre voix, elle a une compagnie qui s'appelle Lunar Comet, elle fait de l'art équestre, elle a un don très particulier, c'est la capacité de dresser des animaux. Donc là, elle est en train de préparer son spectacle avec sa cavalerie et un lapin géant qui s'appelle Tsuki. Et c'est vrai que je pense qu'elle pourrait être un clown. Mais vous savez, il ne faut jamais forcer quelqu'un à être clown. Sinon, c'est toujours désespérant.
On ne force personne.
Voilà. Donc,
surtout pas sur Radio Libertaire.
Un jour, on verra peut-être qu'elle se mettra du blanc au visage.
Vous écoutez Tempête sur les planches, Radio Libertaire 89.4 et la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Radio Libertaire en 2023 avec Tempête sur les planches. Première Tempête de 2023 aujourd'hui là. C'était Johannes Brahms, mais joué au saxophone par Nicolas Arsenievitch et accompagné par Françoise Buffet au piano. Voilà, maintenant, Tatiana Spivakova, très heureux de t'accueillir sur Radio Libertaire. Et mon deuxième spectacle aujourd'hui, c'est Ton corps-ma terre. Et on voit ça à Montreuil, au théâtre ou TNP, ou comme il s'appelle maintenant. Et, le Grand Théâtre à Montreuil, voilà. Et c'est une histoire qui touche à la disparition aussi, en quelque sorte, au coma, à la poésie. Raconte-nous un peu de quoi il s'agit.
Eh bien, il s'agit de la trajectoire, de la traversée d'une femme dans le milieu hospitalier pour tenter de ramener son homme à la vie. Et son homme est à ce moment-là dans le coma suite à un accident. Et voilà, au gré, en fait, dans la pièce, on accompagne cette femme dans sa traversée, de, non seulement du milieu hospitalier, mais du coup dans sa traversée de toute cette épreuve. Et la pièce est un petit peu construite comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on la suit tout au long d'un voyage qu'elle fait dans un avion et au gré de ses souvenirs, elle fait apparaître, elle convoque des éléments du passé, des scènes du passé, certaines scènes projetées, rêvées et d'autres scènes qui ont réellement eu lieu. Et voilà, l'idée pour moi c'était de mettre en parallèle l'image de l'esprit qui est arraché à son corps et l'image du corps qui est arraché à sa terre mère, à sa patrie. Et pour trouver un refuge, pour trouver de la force, pour la traverser, cette épreuve, cette femme se réfugie dans la poésie, et notamment dans la poésie de Mahmoud Darwish.
Mais alors, elle est un peu absente, ce refuge, comment est-ce qu'elle habite ce refuge ?
Elle l'habite par l'amour. Je pense que c'est vraiment le véhicule en fait de toute cette histoire. La poésie vient imbiber un petit peu toute l'histoire et tout le plateau, parce que j'ai vraiment cherché à faire se rencontrer non seulement différents niveaux de langage, différents outils de récits, mais aussi différentes ambiances et différents pans de réel. C'est-à-dire que j'ai vraiment cherché à faire dialoguer le visible et l'invisible, le concret et l'irrationnel. Et je crois que la poésie permet tout ça, et tout comme l'amour finalement.
On a parlé avec Jean Lamberville de Catherine Lefebvre, une écriture très singulière, mais celle de Mahmoud Darwish, elle est aussi singulière, elle est immense.
Oui.
Il n'est plus. Mais c'est son écriture est vraiment quelque part omniprésente. Quand on l'a lu un petit peu, ça ne vous quitte plus.
Exactement. Moi, c'est vrai que cette pièce est un peu aussi une déclaration d'amour à Mahmoud Darwish, parce que moi, ma rencontre avec sa poésie m'a complètement bouleversée, et sa poésie continue de m'accompagner un petit peu tout le temps, et particulièrement en ce moment à l'approche du spectacle. Mais oui, je trouve qu'il a une plume qui est universelle, qui est infinie, parce qu'il est à la fois lyrique et à la fois très concret et à la fois très puissant et en même temps très fragile. Et c'est vraiment assez bouleversant, je trouve.
Ben oui, son écriture, c'est comme... c'est un univers, bon, ok, mais c'est un pays, c'est une terre. Et il y a un de ses poèmes qui s'appelle « Et la terre se transmet comme la langue ».
Comme la langue, oui.
Ouais, ben, donc, même chose, donc... ton corps, ma terre aussi. Donc d'abord, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, ok, c'est une femme, c'est une histoire d'amour, c'est une quête, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'être qu'elle aime. Mais finalement, dans la présentation, Mahmoud Darwish n'est pas tellement mis en avant, mais c'est quand même porté.
Parce que, en fait, Mahmoud Darwish fait partie de la genèse du projet pour moi, c'est-à-dire qu'au départ, je suis vraiment tombée amoureuse de sa poésie et il y a quelques années, j'ai commencé à tout lire, un petit peu de manière boulimique presque, de son œuvre, à l'écouter, à le regarder, à le lire, d'abord dans des ordres, puis dans l'ordre chronologique de sa vie, à tenter de reconstituer ses récits, sa prose, ses poèmes, des articles, des entretiens. Je suis vraiment partie dans une espèce de quête obsessionnelle de son récit de vie et de son récit de déracinement et d'exil, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est vrai que un petit peu comme avec toute rencontre amoureuse, on se sent un petit peu chez soi dans les yeux de l'autre. Et ben là, je me suis vraiment sentie chez moi dans son écriture. Je me suis sentie chez moi dans son verbe. Et finalement, au fur et à mesure de mon processus d'écriture, j'ai fini par chercher plutôt à raconter ma rencontre avec le poète et avec cette poésie-là, plutôt que la vie de Mahmoud Darwish, parce que je me suis dit, mais quelle prétention j'ai, moi, de pouvoir raconter une telle épopée. Et finalement, c'est fou comme quand on assiste vraiment au chemin d'une pièce, au chemin d'un récit et de cette narration, comment elle s'est construite, je me rends compte aujourd'hui à quel point tous les extraits de texte que j'avais mis à la base et que j'ai fini par enlever au fur et à mesure, ils existent encore, ils sont encore là, sous la peau de chaque personnage, dans les silences, entre les mots, et ils imbibent un petit peu tout l'espace.
Alors j'imagine que vous êtes tous ensemble maintenant en train de préparer la première.
Oui, tout à fait.
Qui approche.
C'est, oui, absolument, c'est la générale demain et la première mardi. Mmh, ouais. On trépigne, oui.
Ouais, ouais, ouais. Et, bon, il y a... toute une équipe, vous faites ça ensemble, avec une équipe de 1, 2, 3, 4, 5 comédiens et un musicien.
Absolument.
Qui joue le loud.
Oui, Yassir Rami, à loud.
Et une comédienne qui s'appelle Hayat Darwish, mais bon, c'est un patronyme que je pense assez répandu dans le monde arabe.
C'est un heureux hasard, même si je ne crois pas au hasard, mais ouais, c'est un joli signe de la vie. Oui.
À ce que j'ai compris, de toute façon, Darwish n'avait pas d'enfant.
Non, mais je crois qu'on est tous les enfants de Darwish à partir du moment où on a lu sa poésie.
Et bon, alors c'est une équipe aussi très cosmopolite, de toutes les couleurs, quoi.
Absolument, absolument. Mais je crois que c'est comme ça que je conçois le monde et c'est comme ça que je conçois le théâtre aussi. Je crois que on est tous issus de grands mouvements migratoires, de grands mouvements intérieurs. Et je crois que le théâtre est très fédérateur. Je crois que la poésie permet de créer un lien et un miroir entre chacun, chacune d'entre nous. Et ça crée une grande famille.
Alors, j'ai pas vu de vidéo, j'ai pas vu de répétition. Ce que je vois, ou ce que j'imagine, c'est que, bon, il y a le musicien, et il y a cette femme, donc, qui porte la parole de Darwish, qui s'accroche, qui se donne. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils incarnent ? Quel rôle jouent-ils dans cette histoire ?
Alors en fait, donc, il y a le rôle de Elle, qui est interprétée par Hayat Darwish. Elle, en lisant la poésie, les récits, la prose de Darwish, elle, en le lisant à son homme endormi, elle finit par se projeter et le voir, cet homme dans le coma, comme le poète en exil qui cherche à retrouver sa patrie, qui cherche à retrouver le chemin du retour dans son corps, dans sa maison et chez elle aussi, avec elle. puisque Darwish fait tout le temps cette métaphore entre la femme aimée, entre l'être aimé et la mère patrie, et du coup gravite autour de ce duo entre lui et elle, qui sont comme deux pôles qui cherchent tout le temps à se retrouver. Gravite donc la figure de l'autorité, la figure de la médecin, Dr Z, qui est interprétée par Mali Diallo, et qui joue également la douanière, donc la passeuse, qui va décréter si oui ou non on va pouvoir passer d'un côté ou de l'autre de la frontière, d'un côté ou de l'autre de la vie. Et elle joue également le rôle de la psy à la fin, donc elle tient vraiment, elle incarne vraiment toutes ces figures d'autorité. Il y a aussi le rôle de l'ami, qui est interprété par Louana Duchemin, qui est un petit peu le personnage... c'est la vie qui continue, en fait. C'est la société, c'est les autres, c'est l'énergie qui gravite autour de ce temps qui s'est arrêté pour elle, qui veille son homme endormi. D'ailleurs, cet homme endormi qui est donc lui, Monsieur X, est interprété par Alexandre Ruby, qui donc joue à la fois cet homme dans le coma et également la figure du poète en exil. Et il y a également le rôle du voyageur, qui est un petit peu... Certaines personnes, en lisant la pièce, me demandaient si ce personnage existe vraiment, si c'est pas son ami imaginaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui existe vraiment. C'est un peu l'étranger qu'on rencontre dans un train ou dans un avion, et avec qui, en trois phrases, on comprend qu'on peut lui raconter toute notre vie, tellement on se sent chez soi. C'est ce genre de rencontre-là. Et cet homme-là, c'est l'homme qui voyage, c'est l'homme qui a été partout, qui sait tout, et qui, quelque part... a aussi presque une figure paternelle ou familiale, comme une sorte de grand-oncle qui vient embrasser chaleureusement par sa parole, par sa chaleur, par sa bonhomie, la figure de elle.
Ah, il y a des rôles comme ça dans le théâtre, jouer un fantôme, jouer un absent, mais là, jouer quelqu'un dans le coma, ouais. Il paraît que c'est pas une mince affaire.
Non, c'est vrai, mais je crois qu'il s'en sort très bien. On a beaucoup travaillé en passant par le corps aussi, c'est vrai. Moi, j'y attache une grande importance. Donc, c'est vrai qu'on a ensemble cherché à trouver différentes manières d'être présente au plateau, de s'incarner, de se désincarner, d'avoir une présence ancrée et en même temps qui s'évapore. Et finalement, on a vraiment créé cette partition polyphonique. J'aime bien parler de partition polyphonique parce que je l'ai vraiment écrit comme ça. Je l'ai écrit en entendant différentes musiques, différentes langues. Des nuances, des fortissimos, des chuchotés, des pianissimos, vraiment j'ai des crescendos. Et en écrivant tout ça, cette partition polyphonique, on a vraiment fini par la composer ensemble, en famille, avec toute l'équipe, non seulement l'équipe artistique qui est au plateau, mais aussi l'équipe qui m'entoure en technique, avec qui je travaille depuis très longtemps, et qui est absolument merveilleuse, parce que justement, elles ont chacun, chacune à leur endroit... une manière de raconter, et finalement, dans cette équipe, on est tous et toutes tellement différents, mais je crois qu'on est tous portés par cette même envie de raconter, de dire, et du coup, je fais le pont avec la figure du musicien. Il y a Sierra Mi qui joue de l'oud et qui est là tout au long de la pièce, et qui, lui, pour moi, c'est un petit peu un hommage au conteur ancestral, au conteur qui vient à la tombée de la nuit raconter des histoires au coin du feu et qui repart le matin à l'aube pour pas se faire attraper.
Ah oui, le conteur, le griot. Oui. Et il y a beaucoup de questions d'exil aussi. Oui. Darwish, il était activiste pour la cause palestinienne avec l'OLP. C'est-à-dire qu'il a connu la prison. Il a passé presque toute sa vie en exil, parce que de toute façon, où était son pays? Allez, après, à la Palestine.
Darwish dit que... qu'on peut se sentir dans sa maison quand on a le choix de pouvoir la quitter librement.
Bien sûr.
Et je crois que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Le problème, c'est que quand on a été chassé de chez soi aussi tôt, aussi jeune, la quête du chez soi est infinie. Et en fait, l'exil, c'est aussi ça, c'est de ne se sentir chez soi nulle part, finalement, puisque ce chez soi n'existe plus, puisqu'il a été rayé de la carte.
Ouais, Alors là, oui, extrait de Mural. Mural, ça c'est un texte que...
Mural, oui, c'est un monologue fleuve, un poème magnifique que Darwish a écrit en 98, et où il raconte... notamment une de ses malheureusement nombreuses opérations du cœur. Et donc, dans ce monologue fleuve, il y raconte de manière très passionnante son voyage, justement, dans ce non-lieu et sa traversée, son dialogue avec la mort, et finalement, cette mort qui n'est pas que la peur de sa propre mort, mais qui est aussi toutes les morts qui l'ont entouré dans sa vie, tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a accompagné, et tout ce qui continue de l'accompagner, puisque pour Darwish, on ne meurt jamais vraiment, c'est juste l'âme qui continue de voyager.
Ouais, il dit Je serai ce que je deviendrai dans le dernier ciel. Tout est blanc. La mer suspendue sur le toit d'une nuée blanche et le néant dans le ciel blanc de l'absolu. J'ai été et je n'ai pas été.
Oui.
Et la poésie, c'est fait pour être dit. En principe, je ne sais pas.
Oui. Oui, absolument.
On publie sur des pages en noir et blanc avec les caractères sur le papier, mais oui. A priori, c'est fait pour être dit. Je ne sais pas, l'oralité de Darwish, c'est comment, vous la travaillez comment?
Il y a toujours cette question de la traduction qui, pour moi, me pince toujours un petit peu le cœur, parce que c'est vrai que j'aurais adoré pouvoir, moi, le dire et le lire en arabe, et c'est une langue que je ne parle pas. On l'entend, du Darwish en arabe, fort heureusement, chanté par Yasser Rami à l'oud, mais aussi cité, repris en écho par Raymond Hosni, qui joue le rôle du voyageur. Darwish est présent dans sa figure métaphorique et poétique, dans cette figure du voyageur, du déraciné, de l'exilé, et dans des extraits, des citations, des extraits d'entretien, des extraits aussi de présente absence, notamment une scène de douane où il se retrouve à l'aéroport et où, en passant les portiques, ce qui sonne, c'est son stylo qui devient et qui a toujours été son arme la plus redoutable, puisque même quand il était à l'école primaire, il s'est fait appeler par le responsable de son école et gronder parce qu'il avait écrit un poème qui posait problème. Et sous la menace, du coup, de représailles, et c'est là qu'il a compris à quel point le stylo était une arme redoutable.
Ouais, c'était à l'époque. Aujourd'hui, il y a des fois des drôles de contrôles sur les ordinateurs dans les aéroports.
Enfin, ouais.
On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait. Très bizarre.
C'est ça.
Et l'exil. Alors, bon, il est vraiment question de l'exil, mais tu dis quelque part que ça te concerne aussi. Venant de pays, je te cite, venant de pays dont je me sens aujourd'hui tragiquement déraciné, le fait de pouvoir me réfugier dans l'image ou dans la métaphore est très réconfortant. Alors, oui, il y a l'exil où on doit aller dans un autre pays, il y a l'exil intérieur, il y a différentes sortes d'exil, mais toi, tu es donc aussi en exil?
Oui, oui, je suis aussi en exil parce que moi, je suis d'origine arménienne et russe. Dans mon histoire familiale, on a toujours dû quitter, on a toujours dû partir. Moi j'ai grandi une première partie, je suis née à Moscou, mais après j'ai grandi une première partie de ma vie en Espagne, et ensuite je suis arrivée en France, et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir apprendre cette langue très jeune, et de pouvoir la parler sans accent aujourd'hui. Mais c'est vrai que je crois que dans la manière dont j'ai été élevée par ma grand-mère, entourée par mes sœurs, avec des parents qui voyagent beaucoup, qui sont aussi en exil permanent, parce que c'est des artistes. Et c'est une question, cette question du chez-soi, c'est une question qui ne me quitte jamais. Et je crois que plus j'avance dans la vie, plus je me sens chez moi dans le regard des gens que j'aime, plus je me sens chez moi dans la langue. Et je crois que t'en parlais très justement juste avant, Jean, de ton rapport à la langue. Et je crois que c'est vraiment ça. Comment est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on se sent chez soi, en fait? Je crois que c'est une question qui ne me quitte jamais vraiment. Et j'ai eu un bouleversement profond en rencontrant la poésie de Mahmoud Darwish, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'un coup, très égoïstement, qu'il me parlait, que je comprenais tout, que ça me concernait aussi, que c'était aussi moi qui cherchait les odeurs du café du matin, qui cherchait l'odeur du pain, qui cherchait le contact de la paume de ma grand-mère qui me tenait le visage. C'est des... Je crois que le sentiment du chez-soi est vraiment aiguisé par les cinq sens, et je dirais même par tous les autres sens qui ne sont pas forcément de l'ordre du palpable. Et je crois que la poésie permet ça, elle permet de faire naître d'un coup quelque chose de très poreux, quelque chose de très sensible. Elle permet de faire naître une odeur, elle permet de faire naître un goût dans la bouche, elle permet de faire naître la chair de poule et de sentir que c'est peut-être notre seconde peau. En tout cas pour moi, c'est peut-être une seconde peau en ce moment.
Mais, ouais. Le clown est bien sûr aussi un poète.
Bien sûr.
Totalement.
Bien sûr.
Mais le clown, il ne peut être accueilli que s'il accepte d'être cueilli. Donc, moi, j'ai toujours pensé que j'étais un exilé perpétuellement désarmé. Donc, le seul endroit où je peux vraiment être chez moi, c'est quand j'ai du blanc au visage. Mais c'est un vaste débat.
Mais du coup, ça fait naître la question du rituel aussi, je pense. Comment est-ce que tu le mets, ce blanc au visage?
Ah, je le fais moi-même, d'ailleurs.
J'imagine bien.
Oui, bah, y a un rituel, mais... étant, moi, créole, je me sens vraiment exilé en métropole. Je ne comprends pas, en fait, le monde dans lequel je suis obligé de vivre. Je le comprends de moins en moins, d'ailleurs. Ce n'est pas une misanthropie, pas du tout. C'est que je ne vois pas vraiment... vers quoi tout cela tend, si ce n'est la guerre, voilà. Et effectivement, je pense que très vite, nous allons tous être exilés de nous-mêmes et des autres. Donc, il faut relire les poètes, oui, et les entendre.
Oui, oui. Darwish, c'est une maison, c'est une terre, c'est son écriture. Et après, on trouve peut-être cette envie ou cette capacité de la poésie d'être, mais de la subversion. Quoi.
Ouais.
Quand tu dis « j'avais envie de m'amuser de ces protocoles de langage que la société nous impose parfois en répondant à un interrogatoire de douane par la poésie ou encore en chantant lors d'un rendez-vous médical
ouais. »,
c'est-à-dire d'avoir une réponse comme ça hors du monde pour donner à sentir l'absurdité.
Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans la poésie de Darwish aussi. Et c'est vrai que cette subversion, cette subversivité, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je recherche beaucoup, parce que je trouve que les protocoles de langage sont assez fascinants et j'aime bien m'amuser de ça en essayant toujours dans une quête de sens, en fait, finalement. Mais comme pour moi, le français, c'est ma troisième langue, c'est un peu la langue avec laquelle j'ai appris à raconter, à dire. C'est vrai que toutes les langues que j'ai apprises sonnent comme différents styles musicaux, comme presque différents instruments pour moi, parce que j'ai toujours été imbibée de musique aussi, puisque mon père est violoniste et chef d'orchestre, que mon grand-père l'était aussi, que mes deux grands-mères étaient pianistes, que moi-même j'ai une formation musicale. Donc c'est vrai que la musique m'a toujours entourée, et c'est un langage à part entière, tout comme la poésie. Et c'est Rachmaninoff, je crois, qui disait que la poésie et la musique étaient sœurs, et que leur mère était la mélancolie. mais c'est vrai que, du coup, dans cette pièce, j'ai vraiment cherché à questionner, en fait, ces protocoles de langage-là, pour voir qu'est-ce que ça fait naître, en fait, voilà. Qu'est-ce que ça fait naître de se retrouver face à la douane, à un interrogatoire musclé, et puis de répondre par un chant, de répondre par de la poésie, de répondre par de l'amour, face à une sentence médicale. Qu'est-ce que ça fait de voir coexister sur un plateau autant de niveaux de langage différents, qui puissent tous dialoguer entre eux, raisonner, communiquer. Voilà, c'est un peu des vases communicants, je crois, tous ces médiums-là.
Alors, qu'est-ce que vous cherchez à créer pour recentrer tout ça un peu chez le spectateur? Qu'est-ce que vous vous dites maintenant, le spectateur, qu'est-ce qu'il ramène quand il sort du spectacle? Et qu'est-ce que vous avez envie de lui donner avec cette pièce?
J'ai envie de lui donner de l'amour et de l'espoir, en fait, aussi naïvement que ça puisse sonner. Parce que la pièce, elle raconte aussi comment on peut toucher du doigt l'amour inconditionnel, cet amour inconditionnel qui est voisin d'une forme de foi, affranchi de toute forme de dogmatisme ou d'ésotérisme, tout simplement une foi en soi, en l'autre, une foi en l'humanité, une foi en l'avenir. Et je crois que quand on traverse des grandes épreuves de la vie, comme la maladie, la guerre, la perte, la disparition, la terreur avec un grand T, et quand on se retrouve coupé d'une partie de son corps, j'ai cherché à donner de l'espoir en disant, en fait, il y a toujours un chemin, il y a toujours un chemin vers soi. Et ce chemin-là, il peut passer par 1000 routes, et il faut rester en mouvement pour trouver la bonne.
Alors, le corps, justement, parce que tu dis aussi, j'attache une grande importance à l'engagement du corps dans le jeu.
Oui.
Comment est-ce que vous mettez en jeu le corps?
Eh bien, moi, c'est vrai que je passe beaucoup par le corps dans ma manière de travailler, c'est-à-dire que je reste pas très longtemps à la table. C'est vrai que je passe assez vite au plateau et à travers pas mal d'exercices physiques qui nous permettent de déconditionner notre corps de ses habitudes. Je travaille à explorer, voir comment est-ce que les mots résonnent dans le corps et quelle forme ils prennent. Je m'inspire beaucoup d'une méthodologie qui m'a été passée par mon grand maître grec Yorgos Karamalegos, qui m'a appris une méthode qui continue de grandir, qui est la méthode du Physical Lab, parce que j'ai étudié à Londres pendant un an et c'est là que je l'ai rencontré. Et depuis, il m'a passé cette méthode et je dirige aussi des stages de Physical Lab, qui est un peu une méthodologie qui est inspirée de plein de penseurs du mouvement comme Yoshi Oida, Lorna Marshall, Divi 8, Dimitris Papayohannou, voilà, tous ces gens qui racontent les histoires. On n'a plus besoin de mots puisque en fait toute l'histoire est présente à 360 degrés dans le corps émetteur, récepteur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup moi dans mon travail, qui fait partie d'un de mes outils principaux, que ce soit en tant que comédienne mais aussi en tant que metteur en scène. Et là on a eu l'occasion, la chance d'avoir le regard un petit peu de Yorgos qui est venu nous guider pendant quelques jours de répétition, mais aussi la grande chance d'avoir eu le regard chorégraphique de Fanny Sage de la compagnie Peeping Tom, qui est venue aussi nous accompagner et peaufiner un petit peu tout ce qu'on a dessiné, parce qu'il y a plein de moments sans parole, il y a plein de moments incarné, désincarné, il y a plein de moments où d'un coup, c'est le corps qui raconte, c'est le corps qui dit.
Oui, j'adore Peeping Tom, j'adore Papayohannou.
Mais on a tant adorer fait, le spectacle.
On a tant fait l'éloge, on parle, on parle, on parle, on a tant fait l'éloge des mots, et du coup, hop, il y a le corps. Et j'ai dit, bon, il n'y a plus besoin de mots.
Mais oui, je pense que le corps n'existe pas sans les mots, et vice-versa, je crois que c'est... C'est très important de lui donner sa place. C'est notre premier outil de travail en tant qu'interprète. Et je trouve qu'on vit un petit peu dans une société où on est un peu coupé de notre corps. On prend plus le temps de sentir. On rentre dans un mode automatique.
Et
on croise toujours les mains
le
de la même
grand
manière.
Blanc, ouais, genre le clown grand blanc. Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il habite son corps, en fait?
Comme un hôtel à fantômes. Évidemment, le jeu d'un clown nécessite quand même de faire un travail de physicalité particulier, que ça soit les chutes, que ça soit la pantomime, que ça soit le mime, que ça soit même les caractères d'expression des muscles du visage. Donc tout ça se contrôle et se travaille, en fait, hein, c'est de la pratique. Alors c'est un enseignement qui a un peu varié. Par exemple, on s'est aperçu que les clowns, je l'ai su en discutant avec un vieux clown. Il me disait, mais avec mon père, en fait, on allait voir, quand on était en tournée avec le cirque, les statuaires dans les cathédrales, et on reprenait comme ça quelques gestes baroques. Je trouve ça assez beau. Donc, il y a cette chose. Mais pour moi, le corps, j'ai plus l'impression d'habiter dans un sac qui aurait beaucoup de sacs à l'intérieur de lui, et donc une multitude de sacs, et de passer mon temps à les ouvrir et à m'étonner de voir ce qu'il y a dedans. Parfois il y a de la merde, hein, mais parfois il y a d'autres choses, c'est plus intéressant. Mais j'ai pas une obsession, si vous voulez, du corps. Je pense que le corps est un anima, en fait, et que ce qui l'anime, eh ben c'est pour moi le verbe. Voilà. Le corps, son langage, ne m'intéresse pas beaucoup. Mais ça, et je précise que quand même les danseurs parlent en se taisant.
Ah oui, mais je me souviens, quand on parle de muscles du visage et tout ça, il y avait un travail que tu avais fait pour une pièce avec la captation, et puis il y avait une animation, projection.
C'est il y a longtemps, ça. Ouais. Oui, c'était assez drôle. J'étais dans un musée d'art contemporain et on m'avait appelé. Je pense que c'était un malentendu. On voulait qu'un clown anime une exposition qui n'avait pas grand intérêt. Donc j'avais repris des questions très pertinentes et sentencieuses, et j'avais fait une petite installation où, avec deux cuillères, je me torturais la bouche. Voilà. Puis on voyait mon visage, toutes les grimaces. Et à chaque fois que les questions m'étaient posées, je répondais « je ne sais pas, je ne sais pas ». Voilà, mais c'était drôle, c'est le contre-pied aussi. Parfois tout le monde se prend un peu trop au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut un peu d'humour, il en faut dans le corps.
Oui.
De toute façon, c'est une hypothèque que vous ne pourrez pas rembourser, le corps. Donc mieux vaut en jouir rapidement.
Mais quelquefois, le corps dit autre chose que la parole. Quelquefois il y a des contradictions, quelquefois le corps raconte quelque chose de plus vrai.
Ah oui, le corps en dit beaucoup sur nous, beaucoup plus qu'on ne le croit, je crois. Il a un langage à part entière, il a des habitudes à lui, et je crois que le plateau, l'épreuve du plateau, l'exercice du plateau permet de, à la fois de mettre en lumière ces choses-là, de les métamorphoser, de les sublimer, de repousser un petit peu les limites aussi de notre corps.
Alors, est-ce que
sentir à l'étroit.
Est-ce qu'il y a des côtés aussi dans votre travail, dans ton corps mater, qui tendent vers ce côté humoristique de Darwish?
Oui. ouais, il y a des scènes qui s'approchent même du pantomime, je dirais, parce que l'irréel, la projection et tout cet espace de non-lieu dont à la fois parle Darwish et dont je parle dans la pièce aussi, permet aussi ça, permet de déréaliser un petit peu notre manière d'être, notre manière de se tenir. Donc du coup, ça crée des scènes qui sont presque de l'ordre de l'absurde parfois, et je crois que c'est très important de pouvoir... rire dans les épreuves les plus tragiques. Je crois d'ailleurs que c'est souvent dans les moments les plus tragiques de nos vies où on est tellement poreux que le rire et les pleurs coexistent en permanence. Donc je crois que c'est de plus en plus présent. Enfin, c'est vraiment très présent dans la pièce. C'est de plus en plus présent sur ces deux dernières semaines où on a beaucoup travaillé, on a beaucoup cherché à étirer justement ces choses-là pour que le rire cohabite avec la tragédie aussi, puisque ils sont jumeaux.
Oui, c'est ce qu'on dit. Quand tu es dans la merde jusqu'au genou, tu râles. Quand tu es dans la merde jusqu'à la poitrine, tu vomis. Et quand tu es dans la merde jusqu'au cou, eh ben, tu ris. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et j'avais un peu de musique que je voulais donner à entendre, la musique de Yasser Rami, mais ça ne marche pas, les appareils ici me jouent des farces. Alors la dernière fois, ça a marché après 30 minutes d'essai, etc. Mais bon, ça va pas, on ne pourra pas faire ça aujourd'hui, mais dis-nous quelque chose sur Yasser Rami en tant que musicien, compositeur. Qu'est-ce qu'il fait comme musique?
Yasser Rami, c'est un grand, grand musicien, compositeur. Et en fait, il a vraiment composé et créé toute la partition musicale du spectacle. En allant chercher à la fois des nappes, des espaces d'ambiance, mais aussi en racontant, en guidant avec la musique du oud les différents personnages vers leur vérité, puisqu'il accompagne à chaque fois le personnage de lui et le personnage de elle. C'est comme s'il les guidait pour qu'ils se retrouvent. Et je suis vraiment très honorée qu'il puisse, qu'il ait pu faire ce projet avec nous et qu'il ait écrit toute cette partition musicale qui, en fait, a une partition à part entière. Pour moi, c'est un personnage à part entière dans la pièce. C'est pour ça que je l'ai intégré au texte avec ses respirations, avec ses silences. Le personnage du musicien fait partie intégrante de l'histoire. Et il a composé voilà, une partition qui est vraiment très généreuse parce que elle aussi elle navigue à travers différents styles musicaux, autant lyrique que presque bluesy par moment. Il arrive à trouver des textures musicales tellement tellement différentes et tellement riches et tellement sensibles avec son oud. Il a aussi ramené plein de petits objets, plein de petites choses qui fait résonner avec son oud, avec ses machines, pour créer d'autres textures, d'autres sources musicales aussi au plateau. Mais je ne vais pas trop en dire, comme ça, ça laisse le mystère et ça vous donne envie de venir l'écouter et le voir.
Justement, et dis-nous, ça se passe donc à Montreuil, dis-nous tout sur le lieu et les horaires.
Alors, je vous dis tout, ça se passe au Théâtre Public de Montreuil, en salle Maria Cazares, du 10 au 28 janvier, à 20h tous les jours, mais les samedis, c'est à 18h, et on ne joue pas les dimanches, ni les lundis, sauf le lundi 23. C'est un petit peu laborieux, je crois, ce que je viens de dire, mais voilà. En gros, c'est tous les jours à 20h, le samedi à 18h, le lundi 23 à 20h également, et ça commence mardi.
Alors, la salle Maria Cazares, rappelle-nous, c'est dans le grand bâtiment ou c'est dans la dépendance?
Pardon ?
C'est dans le grand bâtiment ou est-ce que c'est dans la dépendance ?
C'est dans la dépendance.
Donc il faut passer derrière la mairie.
Exactement, c'est à 5 minutes du grand bâtiment et c'est une boîte noire très chaleureuse où on se sent très bien et on a vraiment hâte de vous y retrouver.
Voilà, c'est-à-dire on sort du métro, bon, et il y a ce parc. On peut traverser le parc ou bien on contourne le parc et là il y a une rue. Qui s'appelle comment déjà ? Est-ce que tu
la rue Victor Hugo. C'est au 63 rue Victor Hugo. C'est voilà. Vraiment à 5 minutes de la sortie du métro, mairie de Montreuil.
Voilà. Et Jean oui. Pour Coloris Vitalis au théâtre de Belleville. Tu nous le rappelles aussi.
Le théâtre de Belleville, donc un passe Pivert. Et donc on joue. On a commencé hier, c'était le 7, on jouera jusqu'au 31. On joue les samedis à 17h, les dimanches à 17h30, les lundis à 19h15 et les mardis à 19h15. Et de temps en temps, je m'amuse à déambuler dans Belleville avec ma peau de clown pour le plaisir.
Ah, trop bien.
Bon, allez, on va aller dans le quartier, espérant de rencontrer Jean, de le croiser au café, ou je ne sais où. Et alors, les gens te disent quoi quand tu apparais comme ça ?
Eh bien, on a fait une déambulation qui était incroyable. Qu'est-ce que les gens me disent ? Un clown blanc est une figure populaire extrêmement rassurante. Ça a créé tout de suite un émerveillement. Je n'ai pas besoin de faire le marché, parce que quand je vais dans un marché, je vais avec les gens, on m'offre à manger. Donc, il y a une sorte, les gens se confient, me parlent, me racontent leur vie, on prend des photos. Tout ça est très agréable et ça me rassure, en fait. Et j'oserais dire que j'ai de plus belles réactions avec un public populaire qu'avec un public un peu endimanché qui a peut-être peur que je lui voile son oseille.
Oui, bien sûr. Mais il y a eu l'exemple aussi en Angleterre, il y a quelques années. Quand même, il y a eu des apparitions de clowns en France aussi, et c'était fait aussi pour faire peur, parce que ce clown, il peut aussi faire peur. Il a suffi que quelqu'un se tienne dans la rue, là, dans une ville en Angleterre, là, au nord de Londres, sans rien faire, regarder les gens ou apparaître au-dessus d'un abri de bus, etc. Et ce personnage est tellement mystérieux, finalement, qu'on ne l'approche pas et que tout le monde a été pris de panique.
Non, mais c'est la faute. Clounorophobie. Non, pas que. Il y avait un tueur en série, on le sait, qui était clown. C'était d'ailleurs pas un blanc, c'était un auguste, hein, je le précise. Et non, mais c'est quand même une petite nuance. Voilà. Et effectivement, il y a une branche des clowns blancs qu'on appelle les jokers, donc exactement, les jesters. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Après, vous savez, étonnamment, je pense que tout tient lieu de votre posture. C'est-à-dire que très vite, le public comprend si vous êtes une bête farouche ou une bête aimante. Il le voit dans vos yeux. C'est comment vous allez vous approcher, comment vous allez comprendre qu'il y a des signes d'accueil ou des signes de distance et comment on va résoudre ça tranquillement. Donc moi, j'ai jamais eu de problème dans tous les endroits où je suis allé. Au contraire, c'est l'inverse. Donc je pense que le clown reste quand même une figure populaire, et si ça émerveille les enfants, il serait étrange que cela inquiète les parents.
Oui, il paraît justement que beaucoup d'enfants ont justement peur du clown. Mais le clown qui veut aller là pour effrayer les gens, mais il ne réagit pas, il reste de marbre, hein. Il garde son mystère. Alors dès qu'on agit, dès qu'on fait des clins d'œil, etc.
Si votre enfant a peur d'un clown, humain, ouais. Si votre enfant a peur d'un clown, dites-lui que vous ne lui avez pas montré à cet enfant ce qu'était la singularité. Vous l'avez tellement protégé dans des espaces convenus que dès qu'il voit un masque, autre chose, une étrangeté, un psychopompe, eh bien d'un coup, il est effrayé. Parce qu'il n'arrive pas à reconnaître un espace mental qu'on ne lui a jamais offert. Donc, amenez vos enfants au cirque. Amenez-les dans les forêts, dans les cimetières au Père-Lachaise pour qu'ils voient des statues étranges, des psychopompes, aller au théâtre. Plus vos enfants capteront que l'univers est un infini de possibles, et bien moins ils seront effrayés par un simple masque blanc. C'est quand même terrifiant d'être effrayé par un masque blanc. Ou alors notre société est bien malade.
Allez, tous à Belleville, tous à Montreuil. Bon dimanche.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Je vous l'offre. Enfin, je te l'offre. Tu choisis ta carte de visite, tu choisis laquelle
tu
veux.
Mais j'ai pas de cadeau.
Mais c'est pas grave, tiens. Tu choisis laquelle tu veux. C'est de même, hein, sauf.